France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture plante ses micros sur la Croisette. Du 20 au 22 mai, Olivia Gesbert vous invite à midi à sa grande table.
Cannes fait son festival et je vous y attends pour parler cinéma avec nos critiques et passer de l'autre côté de l'écran avec Céline Sciamma, Antonio Banderas, les frères Dardenne, Claude Lelouch, Anouk Aimée et tant d'autres. Sud-coréens, mexicains, américains, belges ou italiens, tout le monde est là, dans l'œil de la caméra. Ça va ou on la refait ?
C'est OK.
OK, coupez alors.
Retrouvez France Culture, partenaire du Festival de Cannes, jusqu'au 25 mai et sur franceculture.fr. France Culture, 6h-7h, les petits matins. Tout de suite, les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Les députés à l'Assemblée nationale ont achevé cette nuit l'examen du projet de loi sur la fonction publique. Et ils ont notamment voté l'exonération du jour de carence en cas d'arrêt maladie pour les fonctionnaires enceintes. Ce texte concerne 5 500 000 agents et il fera l'objet d'un vote solennel mardi prochain avant d'être étudié au Sénat durant le mois de juin. Au chapitre des votes encore, les géants mondiaux du numérique pourraient être bientôt taxés en France. Les sénateurs viennent d'approuver la loi instaurant une taxe GAFA, l'acronyme de Google, Amazon, Facebook et Apple. Cette taxe vise les entreprises dont le chiffre d'affaires sur les activités numériques dépasse 750 millions d'euros dans le monde, dont 25 millions rien qu'en France. Cette taxe devrait apporter 400 millions d'euros à l'État français rien que cette année. Pour la dernière ligne droite avant les élections européennes de dimanche, Yannick Jadot était hier soir en réunion publique au Cirque d'Hiver à Paris. La tête de liste Europe Écologie Les Verts a fustigé l'écologie de l'inaction d'Emmanuel Macron, ainsi que la liste hétérogène, voire contradictoire selon lui, de la majorité. Le temps des écologistes est venu, a assuré Yannick Jadot. Les européennes encore et le scrutin qui aura lieu au Royaume-Uni dès demain. À quelques heures du vote, la première ministre britannique Theresa May met un nouveau compromis sur la table pour tenter là de sortir de l'impasse du Brexit et de sortir de l'Union européenne. Theresa May offre aux députés la possibilité de choisir un second référendum sur la sortie de l'Union. L'accord a déjà été rejeté par 3 fois par le Parlement britannique. Il sera donc de nouveau étudié le 3 juin prochain. D'ici là, les élections européennes auront lieu au Royaume-Uni demain. Et puis, les États-Unis soupçonnent le régime de Bachar el-Assad d'avoir mené une nouvelle attaque chimique en Syrie. Selon le département d'État américain, il s'agirait d'une attaque au chlore survenue dimanche dernier dans la région d'Idlib. Washington recueille encore des preuves, mais menace déjà Damas de représailles.
Couples et duos, Roméo et Juliette de Prokofiev, suite de Péléas et Mélisande de Debussy, double concerto de Dubignon, sonate pour deux violons de Prokofiev. L'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mico Franck fête les couples et duos le jeudi 13 juin à 20h à l'Auditorium de Radio France avec le violoncelliste Gauthier Capuçon et le pianiste Jean-Yves Thibaudet. Entrée au cœur du concert. Renseignements et réservations maisondelaradio.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03. Nous retrouvons Toufik Akeb pour parler cinéma aujourd'hui.
Le réveil culturel. Toufik Akeb.
Ce n'est pas leur premier Cannes, loin de là, mais c'est la première fois qu'elles viennent au festival en tant que réalisatrices, avec un premier film chacune. Et ce n'est pas le seul point commun entre mes deux invités ce matin, Afzia Herzi et Monia Chokri. Deux comédiennes qui passent de l'autre côté de la caméra. La française Afzia Herzi a présenté à la Semaine de la Critique « Tu mérites un amour » et la québécoise Monia Chokri a ouvert la sélection Un certain regard avec « La femme de mon frère », deux films réjouissants, deux comédies sociales contemporaines sur l'amour, la famille. Bonjour Monia Chokri.
Bonjour.
Bonjour Afzia Herzi.
Bonjour.
Bonjour tout le monde, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter le Réveil culturel, émission préparée avec Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard avec ce matin à la technique Nasser Moussaoui. Et merci d'être avec nous ce matin Michel Simon, l'éternel jeune du Festival de Cannes et le patron du magazine Positif qu'on ne présente plus.
Le Réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Que représente le festival de Cannes pour Monia Chokri et Javier Herzi? Vous qui connaissez très bien les coulisses de ce festival, puisque vous êtes allée plus d'une fois en tant que comédienne, donc vous connaissez le rituel, le stress, mais aussi les fêtes, l'ivresse de ce festival aujourd'hui, il représente quoi pour vous?
Bah alors moi j'ai tout fait, j'ai fait un premier festival où je ne dormais pas, où on était allé avec Les Amours Imaginaires pour Xavier Dolan, et c'était mon premier Cannes, alors on est resté 8 jours, on n'a pas dormi, on ne dormait pas la nuit, on faisait les interviews le jour, et après j'ai fait un Cannes plus sage en 2012 avec Laurence Anyways, où j'étais passé pas très longtemps, voilà, donc je connais un peu Cannes de diurne et nocturne, et je pense que là ce sera un Cannes plus diurne pour moi cette fois-ci.
Asya Herzi ?
Oui, j'y suis allée plusieurs fois. J'ai toujours été très sage pour être bien sur les photos. Là, ça va être autre chose, en fait. C'est une autre pression, parce que quand on joue dans un film, on a moins de pression. On va dire qu'on profite plus, quoi. On est plus détendu, voilà, c'est cool. Mais là, c'est différent, quoi.
En tant que réalisatrice, c'est
oui.
Différent ?
Là, je comprends un petit peu les réalisateurs avec qui j'ai travaillé, quoi.
Et qui ne voulaient pas venir à la fête ?
Qui ne voulaient pas venir à la fête, qui s'enfonçaient dans leur siège, qui arrivaient à la projection... Non, je comprends mieux.
En même temps, moi, je trouve que c'est plus de pression, mais c'est mieux en fait. C'est plus intéressant. Déjà, j'ai l'impression qu'on m'approche et qu'on m'aborde pour mes idées, non pas parce que quand on y va comme actrice, il y a quand même un rapport au physique qui est un peu lourd à porter, on a l'impression un peu qu'on est des porte-manteaux, des faire-valoir. Et quand on y va comme réalisatrice, comme réalisateur, on s'intéresse à nos idées, ce qui est assez beau.
Avant de parler de votre film, Monia Chokri, La femme de mon frère, et de votre film, Asya Herzi, Tu mérites un amour, est-ce que vous vous posez la question de votre rapport à ce festival de Cannes? Est-ce que vous avez tout fait pour être sélectionné à Cannes? Est-ce que vous avez fait une pression auprès de vos distributeurs, de vos producteurs? Alors, Asya Herzi, c'est vous qui avez produit le film, donc vous avez pu pouvoir nous répondre tout de suite.
Donc
c'était important pour vous d'y aller?
Franchement, c'est vraiment vrai, hein. J'y pensais même pas. Donc moi, j'ai autoproduit le film et j'étais encore en montage quand je me suis dit, ah tiens, Cannes, c'est bientôt, je vais regarder la deadline. Et j'ai vu la deadline, je me suis dit, bon, je vais l'envoyer. Le film était même pas terminé, hein, j'étais encore en montage. Donc avec mon monteur, on a préparé une version plus ou moins sympathique. Et je l'ai envoyé comme ça. Mais moi, j'avais ni pression distributeur, producteur, parce que c'était moi qui gérais tout. Et vraiment, je l'ai envoyé vraiment comme ça. Pour moi, le film n'était pas terminé. Et dès qu'on m'a dit que c'était bon, je l'ai jeté au montachon immédiatement pour être dans les temps. Et là...
Parce que c'est important de passer par Cannes, je suppose.
Franchement, j'y pensais même pas. Franchement, il y a quelques mois, je pensais même pas que le film allait avoir une vie. Je me suis dit, bon, si j'arrive à le vendre à une télé, ça peut être bien, mais... J'étais déjà dans mon obsession, c'était la finition de ce montage.
Monia Chokri, pour vous, c'était un enjeu d'être sélectionnée à Cannes?
Alors oui, je crois que c'était un enjeu parce que, en fait, je sais pas que je n'y rêvais pas, mais je pense que je me disais que c'était pas grave si j'allais pas à Cannes, j'aurais pu aller ailleurs, Mais c'est un enjeu parce qu'au Québec, si le film n'est pas dans un festival. Un film d'auteur, il a une vie quand même très familique. Donc c'était quand même pour nous évidemment un enjeu et surtout pour un, j'aime pas dire marché, mais c'est quand même le cas, puisque c'est un film francophone, il y a quand même toute une ouverture vers la France qui est importante. Mmh. Et évidemment, le festival de Cannes donne cette espèce de saut approbateur qui permet quand même une jolie vie au film. En fait, c'est ça l'important. Oui. C'est pas les paillettes, c'est pas le glamour. Ce qui est important, c'est que ça donne une visibilité au film, donc l'envie aux gens peut-être de le voir et un saut approbateur d'une certaine qualité.
Complètement. Mais c'est vrai qu'un film d'auteur sans festival, on peut dire qu'il est mort-né, quoi, parce que ces films-là ont besoin de ce genre de festival pour exister, pour avoir un peu de lumière sur eux.
Même si, en ce qui vous concerne, ce sont deux films d'auteur, mais qui s'adressent au grand public et qui ont cette envie de s'adresser au grand public. Extrait du film de Asya Herzi. De quoi parle Tu mérites un amour, Asya Herzi? C'est les états d'âme, les dépressions d'une jeune fille en pleine rupture amoureuse?
Oui, c'est un peu, on va dire, ça aborde plusieurs sujets, mais en gros, c'est l'histoire d'une fille qui essaie de se reconstruire après une rupture, qui n'est pas vraiment une rupture, enfin une histoire d'amour compliquée, et qui passe par plein d'émotions, et qui va se perdre un petit peu dans tous les sens pour essayer d'aller mieux, en fait. Qui essaie de trouver la solution pour, on va dire... soigner son cœur.
Pourquoi ce film? Pourquoi ce sujet?
J'ai toujours eu envie de réaliser un film qui parle d'amour et des relations homme-femme, du désir, enfin Vraiment, c'était un projet que j'avais, qui n'était pas prévu, ça ne devait pas être mon premier film. Mais c'est un scénario que j'avais écrit, qui est, on va dire, dans mes archives. Mais j'avais envie de faire un film libre, en fait. Un film d'amour libre et de parler de ce sujet-là. On va dire le chagrin d'amour, qui est un sentiment universel, où je pense beaucoup de gens pourront se reconnaître.
Et vous jouez le rôle principal?
Voilà, oui. Alors, c'était pas prévu aussi.
Alors, comment on fait?
Comment on fait? Bonne question. Bah, c'était pas prévu parce que donc j'ai fait en plusieurs fois. Mmh. Je me suis posé la question, je me suis dit sur qui tu vas pouvoir compter si le tournage s'éternise. Donc voilà, je me suis dit, bah, toi tu seras toujours là. Donc je me suis lancée, bah, on réfléchit pas, on fonce en fait. J'ai pas réfléchi, franchement. J'ai foncé.
Mais d'être des deux côtés de la caméra, ça veut dire quoi? À la fin de chaque prise, il fallait revoir la scène?
Oui, ouais. Ça rend malade en fait. Franchement, ça rend malade, mais enfin, je pense que si j'avais fait 10 ans avant, ça aurait pas été pareil. Là, je pense qu'avec l'expérience, tout ça, j'ai réussi à gérer, mais il faut tout gérer, cadrer. Bon, je faisais quand même des mises en place avant, ou voilà, je faisais bien le cadre, tout ça, et après, voilà, on se lançait, mais ça m'arrivait pendant des prises de. Recommencer pendant la prise, me replacer ou replacer les gens qui étaient mal placés. Enfin.
Et personne pour vous diriger, pour une fois, Afsi Arzi, puisque c'était vous la réalisatrice.
Voilà,
alors.
Donc c'est moi. Ouais. Franchement, ça a été que du bonheur. C'était trop bien.
Monia Chokri, La femme de mon frère. Ça parle de quoi, votre film?
L'histoire simple, en deux mots, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vivent une relation de fusion.
Bah, fusionnelle, vraiment.
Et qui sera compromise le jour où le frère tombe amoureux d'une femme. Donc, et on suit le parcours du personnage féminin, donc de Sophia.
La femme qui se trouve être la gynécologue de la sœur.
Voilà.
Et pour vous, c'était quoi l'idée de départ? C'est de décrire les relations familiales, amoureuses, aujourd'hui?
Alors il y avait plusieurs choses qui m'intéressaient, mais vraiment l'idée de base c'était vraiment de traiter de cette relation frère-sœur que je trouvais qui n'avait pas été énormément traitée au cinéma. J'avais comme exemple Love Stream de Cazavette par exemple, qui était son dernier film qui traite de ça, mais sinon j'avais pas forcément d'exemple très précis sur cette relation-là. Sinon, ça tombait souvent dans l'inceste, en fait. Et je trouvais que c'était dissonant et que c'était injuste par rapport à cette relation qui n'est pas faite de chair, justement. C'était le point de départ. Et après, il y avait vraiment cet hommage à la famille. Comment par la famille, on apprend l'amour, en fait. C'est un apprentissage de l'amour et cet amour-là nous sauve et nous permet de mieux vivre, quoi. De sortir de s'aimer, d'aller vers les autres. Voilà. Donc, et comme j'ai vécu c'est pas autobiographique, mais c'est une forme d'autofiction. C'est vrai que c'est un réel hommage à cet amour que moi j'ai appris de ma famille.
Et de votre frère?
De mon frère et de mes parents.
Ouais, puisque effectivement il y a un très beau portrait du père et de la mère dans votre film, Monia Chokri. Contrairement à Javier Herzi, vous ne jouez pas dans votre film.
Non, et d'ailleurs
il faut attendre la fin pour qu'elle apparaisse.
J'admire énormément ceux qui le font d'ailleurs, Xavier Dolan, Valeria Bruni-Tedeschi, Afsia. Mais moi franchement je ne sais pas comment faire. Enfin peut-être que ça m'arrivera plus tard, mais je comprends très bien d'ailleurs, c'est effectivement le fait d'être autoproduite, de se dire sur qui je peux compter, je trouvais que c'est assez logique en fait dans son cas. Mais moi je n'arrive pas à comprendre comment je pourrais diriger les acteurs en jouant avec eux, en m'abandonnant moi-même, mais en ayant toujours un regard un peu alors c'était une question même que je pouvais vous poser parce que c'est quelque chose qui me...
Ça a été à l'instinct en fait. Si je ressentais pas la bonne émotion, si mon personnage ne ressentait pas la bonne émotion, je continuais.
Mais vous
devez diriger les autres par exemple, ouais. En jouant soi-même avec l'autre.
Oui. Non, j'ai réussi à gérer franchement. Mais parfois c'est vrai que c'était bizarre parce qu'on était en pleine scène et d'un coup, tiens, recommence ta phrase, refais, redis ça comme ça. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu une aide du ciel peut-être, mais... Non, c'était dingue, c'était trop marrant, franchement.
Beaucoup de répétitions dans votre film, Avia?
Pas trop, avant les prises, oui, mais pas trop, bah, parce qu'on l'a... Enfin, quand j'ai décidé de tourner, c'était un jeudi, le lundi, on était en tournage. Donc, non, pas énormément, ouais.
Et vous, Monia?
Énormément.
Ouais.
Oui, moi, je fais beaucoup, beaucoup de répétitions avec les acteurs en amont, et même dans les décors. J'arrive parfois, j'ai réussi parfois à avoir des décors. Donc, ça me permet... J'aime beaucoup parce qu'en fait, par exemple, pour le frère, dans son appartement ou dans la maison des parents, on a pu répéter avant. Et je trouvais ça intéressant parce que le problème, c'est quand on est acteur, on arrive dans, par exemple, dans son appartement, on doit y vivre, on doit faire semblant de connaître cet appartement par cœur et d'y vivre depuis 10 ans, alors qu'on met les pieds à peine sur le décor au cinéma. Alors j'avais envie qu'ils s'imprègnent de ces décors, qu'ils aient une espèce de référence et d'imaginaire déjà pour pouvoir tourner deux semaines plus tard ou dans ce décor.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Avia Herzi et Monia Chokri ce matin, qui présentent leur premier film à Cannes, à la Semaine de la Critique pour Avia Herzi et son premier film, donc Tu méritais l'amour, et l'ouverture d'un certain regard qui a été assuré par le film de Monia Chokri, La femme de mon frère. Vous avez plus d'un point en commun, hein, c'est-à-dire on a parlé du fait que c'est votre premier film, vous êtes toutes les deux connues en tant que comédienne. D'ailleurs, ça fait quoi d'être à Cannes alors que les réalisateurs qui vous ont révélé sont là en compétition officielle? Je pense à Xavier Dolan qui va présenter son film Mathias et Maxime aujourd'hui, je pense à Abdelhadif Kechiche qui vous a révélé dans La graine de Mulet et qui est en compétition lui aussi. Ça fait quoi?
Et je joue dans le film aussi.
Et vous jouez dans le film, ouais.
Bah, beaucoup d'émotions. Moi, déjà, quand on m'a dit, quand la semaine m'a dit qu'il voulait le film, j'ai pleuré, vraiment. C'est comme si on m'annonçait je sais pas quoi. Et tous les acteurs à qui je l'ai annoncé après, pareil, tout le monde, enfin, vraiment, c'était nous, enfin, une joie, mais. Et pendant des jours, et j'avais peur, je recevais pas l'invitation, je me suis dit, est-ce qu'ils sont désistés et tout. Enfin, je me faisais des films. Donc, incroyable. Et quand je l'ai annoncé à Abdelhatif, il était très ému, mais j'ai attendu la fin, en fait. J'ai attendu d'avoir la réponse pour lui dire. Voilà, mon film, il a été pris à Cannes. Non, c'est incroyable, franchement.
Et vous, Monia Chokri?
Beaucoup d'émotions.
Moi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'avec Xavier, on est tellement proches aussi que il y a cette espèce de genre. On a l'impression qu'on défend le même cinéma aussi, qu'on fait partie de la même famille. Donc, de retourner dans la salle de Bussy, qui m'a vu naître comme actrice avec Les Amours Imaginaires il y a presque 10 ans. Et aujourd'hui, d'y retourner comme cinéaste, d'avoir l'impression que je vais peut-être éclore comme cinéaste, ça me crée une vive émotion. Xavier sera dans la salle, il verra mon film, je verrai le sien.
Ils ne seront pas encombrants, le fait d'avoir Kechiche et Xavier Dolan? Vous n'avez pas peur d'être à l'ombre de deux grands fils prodigues du cinéma?
Alors là, non, pas du tout. J'ai l'impression même que ce sont des forces communes. C'est-à-dire, en plus, on fait un cinéma. C'est un cinéma de la même famille, mais c'est un cinéma qu'on articule le monde de manière très différente.
Donc
très
les distingue. Influences qu'on peut voir, les influences de Kechiche dans votre film Avia Herzi, notamment ce côté marivaudage qu'il y a dans ce film, et puis la manière de filmer les gens en pleine crise de nerfs, très proche d'eux, dans votre film Monia Chokri. On va sans doute beaucoup vous parler de vos mentors.
Mais étonnamment, mon parle pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de référence.
Et qu'est-ce que vous dites? Vous dites tant mieux?
Non, moi ça ne me gêne pas parce que je trouve que c'est un grand cinéaste. Donc c'est mieux d'être lié à un grand cinéaste que l'inverse. Et après, bon, c'est notre côté peut-être arabe aussi, les deux, Xavier
Et
moi, de parler fort, de s'aimer fort.
Et ben enfin, voilà l'autre point commun entre Avia Herzi et Monia Chokri. Vous êtes toutes les deux d'origine tunisienne. Avia Herzi, vous avez même tourné dans quelques films tunisien. Et vous, Monia Chokri, eh ben, pour ceux qui connaissent très bien la Tunisie, vous êtes la fille du peintre et militant de gauche tunisien qui a été obligé de s'exiler au Canada où vous êtes née.
Voilà, oui.
Et vous avez tenu à rendre hommage aussi à cette communauté dans votre film.
Oui, en fait, je trouvais ça... Au départ, en fait, le père n'était pas en fait, d'origine étrangère. Mm-hmm. C'est Xavier, d'ailleurs, qui a lu le traitement et qui m'a dit...
Xavier Dolan
m'a dit, il n'y a que des Arabes pour se parler comme ça dans une famille. Et j'ai dit,
et dans le film de Hazia Herzi, ils disent, il n'y a que des Arabes pour se disputer en pleine fête, comme ça.
Là, il y a les Arabes, il y a les embrouilles.
Ouais. Je ne sais pas si ce second degré passe dans la France d'aujourd'hui, à Herzi, c'est avoir risque et péril.
Oui, c'est ça, on a le droit.
C'est
mais non, mais l'idée du génie dans le film de Monia Chokri, c'est que quand même, le rôle de Karim et de sa sœur sont tenus par des Québécois.
Oui. Oui, oui. Et c'est important pour moi parce que, en fait, j'ai un rapport à l'identité qui est assez flou. Parce que ma mère, moi, je suis née au Québec. Ma mère, elle est d'origine écossaise, francophone. J'ai aussi du sang scandinave. Mon père, il est tunisien, mais il est berbère. Donc, c'est aussi toute une histoire de colonisation. Et donc, tout ça sera, pour moi, c'est en fait, l'identité veut dire beaucoup de choses et rien, en fait, en même temps. Et donc, c'était important pour moi que des gens qui sont pas forcément arabes d'origine puissent incarner des personnages arabes et que l'identité se porte en soi et pas que sur le physique. Et je voulais, et d'ailleurs Sassone Gabaye est un acteur israélien qui est né en Irak, sa langue de maternelle est l'arabe, mais il est juif. Donc voilà, pour moi tout ça c'est le même peuple, quoi. Et je voulais aussi un personnage de père arabe qui sortait un peu des clichés du conservatisme, de l'image qu'on a dans le cinéma et dans la fiction des Arabes d'aujourd'hui. Donc
La femme de mon frère de Monia Chokri qui va sortir bientôt en juin, vous pouvez le voir à la reprise d'Un certain regard au Forum des images. Il faudra attendre la rentrée orange pour voir le film de Hazia Herzi, Tu mérites un amour. Dernière question pour vous deux, est-ce que le mouvement MeToo a eu une influence sur votre décision de passer à la réalisation, de raconter vous-même des histoires? Monia Chokri?
Non, moi c'était, j'avais déjà commencé, j'avais fait Quelqu'un d'extraordinaire en 2013, c'est quelque chose que je faisais déjà. Après, je pense pas que ça a une incidence sur notre volonté de créer.
Hazia Herzi?
Pareil, moi j'ai fait un court-métrage en 2010. Et j'ai toujours voulu passer à la réalisation depuis très très longtemps, donc non, pas du tout.
Tout en continuant à être comédienne?
Oui, mais c'est vrai que là j'ai vraiment plus envie de me concentrer sur la réalisation.
Et vous, Monia Chokri?
Ça me permet une certaine liberté en fait, c'est que j'adore jouer, mais j'aurais envie que tous les projets que je fais comme actrice, j'y crois à 100%. Donc j'espère qu'avec le travail maintenant de scénariste et réalisatrice, ça me permet de... voilà.
Bon, vous restez avec nous, Michel Simon va nous rejoindre. Nous avons un autre jeune avec nous, Michel Simon, bonjour. Hazia Herzi, Monia Chokri, je vous présente Michel Simon. 51 festivals de Cannes au compteur en comptant celui-ci.
Absolument.
Est-ce que vous connaissez, Hazia Herzi, la théorie du premier film selon Michel Simon?
Pas du tout.
Alors justement, c'est le moment d'apprendre quelque chose. Je vous laisse la parole.
C'est-à-dire que parfois on est condescendant, on dit c'est pas mal pour un premier film. Alors, c'est une phrase idiote parce qu'il y a énormément de très très bons premiers films. C'est une caractéristique du cinéma qu'il y a, c'est plus difficile de réussir le septième film que de réussir le premier quand on a du talent, évidemment. Parce que quand on fait son premier film, on n'a pas d'obstacle. On n'a pas eu de réaction de la critique jusque-là. On n'a pas eu le box-office. Donc on fait ce qu'on a envie de faire et on se livre totalement. Et le nombre de premiers films qui sont des grands films, on ne peut pas les compter tellement il y en a. Et d'autre part, il y a aussi les premiers films de comédiens. Alors ça, c'est très intéressant parce que...
Et c'est le cas aujourd'hui avec...
C'est le cas aujourd'hui.
Monia Chokri, Hazia Herzi.
C'est-à-dire que d'abord, le comédien ou la comédienne, c'est la personne la mieux placée pour voir l'ensemble du tournage d'un film. Il voit le travail du chef opérateur, il voit le travail du gaffeur, il voit le travail des autres comédiens, il voit le travail du metteur en scène. Donc les comédiens qui ont du talent, eh bien, ils réussissent souvent leur premier film. Pensez donc par exemple, Vittorio De Sica, c'était un comédien. Clint Eastwood, c'était un comédien. Jerry Lewis, c'était un comédien. Voilà, tous ces gens qui sont devenus d'immenses cinéastes étaient tous des comédiens. Barbara Loden, Wanda, qui est un chef-d'œuvre, c'était une comédienne. Valeria Bruni Tedeschi, Brigitte Rouen, Nicole Garcia, Maisie Eterling, une Suédoise. Laurence Olivier était comédien aussi. Charles Laughton, il a fait un chef-d'œuvre, La nuit du chasseur, il était comédien. Albert Finney, Charlie Bubble, son seul film, magnifique. John Cassavetes, il était comédien. Regardez Shadows et tout ce qui a suivi. Donc, je pense que...
Et vous faites la différence entre un film de comédien et un film de réalisateur qui n'a jamais été comédien, Michel Simon ?
Ben, quand ils sont bons, il n'y a pas de différence. Quand ils sont pas bons, c'est en général du narcissisme, c'est-à-dire que l'acteur se regarde, adore se voir, etc. Mais la plupart, tous ceux que j'ai cités, ce sont vraiment des gens de grand talent. Gérard Blin, par exemple, c'est pareil. Ils ont réussi leur premier film et ensuite beaucoup d'autres, simplement parce qu'ils font ce que doit faire un metteur en scène, c'est-à-dire penser à l'ensemble du film et pas seulement à leur personne.
Beaucoup de premiers films à Cannes cette année, dont deux en compétition officielle, puisqu'il y a le film de Lajli, mais aussi le film Atlantique de Mati Diop. Mais il n'y a eu qu'un seul premier film sélectionné en compétition officielle à Cannes qui a remporté la Palme d'Or, c'est bien entendu...
Sexe, mensonge et vidéo,
ben voilà,
de Soderbergh, effectivement, qui était un premier film.
Michel Simon, vous vous mettez en couverture de votre magazine Positif, Pedro Almodovar.
Oui, pour son film qui est en compétition à Cannes.
Et qu'on peut voir en salle, puisqu'il est sorti la semaine dernière.
Alors, Douleur et gloire, j'espère que ce sera enfin l'occasion pour Almodovar d'être couronné comme il le mérite par une Palme d'Or, parce que c'est un film magnifique.
Tout le monde en dit le plus grand bien, en tout cas.
Probablement un de ses plus grands films, qui est assez différent du Almodovar flamboyant des débuts, ou même de Femme au bord de la crise de nerfs. C'est un film qui est d'abord une sorte de confession de lui-même. C'est pas un autoportrait, parce qu'on peut pas littéralement dire que le film raconte la vie d'Almodovar, mais c'est tout de même un film de vieillesse. C'est un film sur un homme qui alterne dans ce film ses souvenirs d'enfance avec sa mère jouée par Penélope Cruz dans une campagne catholique, etc., très conservatrice. Ça, évidemment, c'est Almodovar, mais c'est aussi un film qui parle de son ancien amant, qui parle de ses rapports avec Antonio Banderas, qui était son acteur chouchou au début et qui vient lui rendre visite. Donc c'est un film assez finalement dépouillé, rigoureux, d'une extraordinaire émotion, très sombre, mais magnifique. J'ai été bouleversé par ce film.
Douleur et gloire de Pedro Almodovar. Merci Michel Simon,
alors,
vous retrouve.
Peut-être on peut parler un tout petit peu de ce numéro, puisque...
De Positif.
Oui, donc... il y a d'abord 3 heures d'entretien avec Clint Eastwood, c'est tout de même rarissime, et aussi un très grand entretien avec Juliette Binoche, et puis il y a tout un dossier sur Michel Deville, qui a un hommage à la Cinémathèque ce mois-ci.
On en a
très,
parlé.
Très grand cinéaste français.
Merci Michel Simon, on vous retrouve tout à l'heure avec Olivia Gesbert dans la grande table. Une réaction, Monia Chokri, sur ses premiers films et sur les films réalisés par des comédiens et des comédiennes ?
Comédiennes. Alors, ce que je trouve très beau, c'est que souvent les acteurs sont très bons dans les films de comédiens et comédiennes parce qu'ils sont évidemment dirigés par des acteurs, ce qui est formidable. On sent l'amour des acteurs, en fait. C'est souvent ce qui motive les comédiens à passer à la réalisation, c'est par amour du jeu. Et puis, il y a tellement d'exemples de grands films, de grands premiers films.
Bah, qu'on vient de le rappeler, Michel Simon.
Oui, voilà, donc, ça c'est, voilà. Mais j'espère quand même que mon premier film ne sera pas mon meilleur.
Et vous, Afsigarzi?
Bah, je trouve que ce que Michel a dit est très très beau. Et voilà, je suis d'accord avec lui.
Merci, bon festival de Cannes à vous, Afsigarzi. Vous qui avez présenté à la semaine de la critique, Je mérite un amour. Et à vous aussi, Monia Chokri, pour La femme de mon frère, qui a ouvert le certain regard. Il ne reste plus qu'à attendre le palmarès. Peut-être qu'une de vous deux, ou vous deux, vous allez la décrocher, la caméra d'or. C'est important pour vous, les prix ? Oh, vous avez été archi-primé.
Non, mais les prix, c'est encore la même chose. C'est comme les paillettes, ça n'a aucune incidence, hormis le fait que ça donne la lumière au film et qu'on fait des films pour que les gens les voient.
Et ce sont deux films à voir. Merci, merci à vous. On se retrouve demain à la même heure.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture. l'esprit d'ouverture.
France Culture présente l'exposition Homère au musée du Louvre-Lens. Pour la première fois, une exposition d'envergure internationale explore la référence à Homère et aux héros de l'Iliade et de l'Odyssée. Près de 250 œuvres, de l'Antiquité à aujourd'hui, offrent une plongée inédite dans la richesse du monde homérique et donnent l'occasion d'en percer les nombreux mystères. Homère, jusqu'au 22 juillet, au musée du Louvre-Lens, dans les Hauts-de-France. Un partenariat France Culture. Place de la République, saison 2, Sonia Kronlund.
Place de la République, c'est la façon dont la République fonctionne ou pas dans trois institutions, trois services publics emblématiques. Place de la République, saison 2, c'est dans un commissariat à Auxerre, un hôpital à Amiens et une mairie à Marseille.
J'habite tout seul dans un appartement. Là, je suis hospitalisée, j'ai personne, je suis dans la misère.
Place de la République, chaque mercredi dans Les Pieds sur Terre à 13h30 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Les élections européennes se rapprochent et les têtes de liste mettent leurs dernières forces dans la bataille. À gauche, les personnalités s'enchaînent sur les scènes des meetings. Hier, c'est Martine Aubry, la maire de Lille, qui s'est impliquée. Les européennes dans 4 jours donc, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, notez qu'elles auront lieu demain. Dans ce journal, nous irons en Turquie où une chaîne de télévision est accusée d'avoir censuré le candidat d'opposition à la mairie d'Istanbul lors d'un débat. Et puis, le ministre de l'Éducation nationale en France, Jean-Michel Blanquer, veut rassurer les parents d'élèves sur sa loi pour une école de la confiance. Il les a reçus hier. Compte rendu à suivre. J-4 donc avant les européennes et les réunions publiques, je vous le disais, s'enchaînent. Hier notamment, Raphaël Glucksmann, qui mène la place publique alliée au Parti Socialiste, au Parti Radical de Gauche et à Nouvelle Donne. Raphaël Glucksmann donc était à Lille devant 500 militants et sympathisants. Après les soutiens affichés des anciens ministres Christiane Taubira et Bernard Cazeneuve, c'est la maire PS de Lille qui a apporté son soutien à cette liste. Un meeting dans la région lilloise. Et c'est un reportage d'Anne-Laure Bouzy.
C'est le dernier grand meeting de Raphaël Glucksmann et cette liste, c'est une première étape pour rassembler la gauche, le félicite Martine Aubry.
Nous avons eu la chance que Raphaël se lève, comme il dit, pas avec tous les codes, bah tant mieux, mais avec une fraîcheur et surtout une conviction. Bien sûr, on aurait aimé dépasser une alliance de 4 organisations, mais certains qui pourtant crient tout haut « Oui, il faut que la gauche soit rassemblée, nous sommes pour l'union », tout bas disent « Moi, et moi, et moi ».
Un soutien qui fait du bien à Raphaël Glucksmann et auquel s'est ajouté dans la soirée celui de Lionel Jospin.
Moi, je suis fier que Lionel Jospin et Martine Aubry en particulier apportent leur soutien à notre démarche. Parce que notre démarche, c'est aussi de rendre la gauche à elle-même.
Avec cette liste Envie d'Europe, Raphaël Glucksmann a envie de faire mentir les sondages et les militants, eux, ont envie d'y croire.
Ah bah ça redonne un peu d'espoir. On est sur la bonne voie.
Un large rassemblement à gauche, c'est ça la bonne voie pour Dominique.
Il aurait fallu qu'il y ait une gauche regroupée, qui parte au combat sur les idées de la gauche. Alors bien sûr, il y a des différences, mais pas fondamentales.
Parce que là, c'est pas gagné.
Enfin, je ne suis pas devant, mais malheureusement, il faut être réaliste. Ça va être compliqué.
Le principal adversaire pour Raphaël Glucksmann, c'est selon lui le fatalisme qui a gagné le peuple de gauche.
Autre réunion publique hier, entre autres, le Parti communiste français dans le Nord a voulu s'adresser à l'ancien cœur ouvrier, espérant renouer avec les classes populaires. Quant à Valenciennes, le Premier ministre Édouard Philippe demandait lui des militants acharnés, les appelant à se mobiliser pour le scrutin de dimanche en France. Et certains Français pourront voter depuis l'étranger, les expatriés. Ceux qui sont installés dans l'un des 27 autres pays de l'Union européenne auront d'ailleurs le choix, soit participer au scrutin français, soit voter pour une liste de leur pays d'accueil. Et en théorie, personne ne peut voter deux fois. Pourtant, dans les faits, il existe quelques couacs. Voici des exemples avec Louise Baudet.
Elle vit aux Pays-Bas depuis 13 ans, mais n'a pas renoncé à son engagement militant. Marie-Aude Thibault, bien décidée à voter pour une liste française, est très étonnée de recevoir il y a quelques jours un Stempass à son nom. Stempass en néerlandais veut dire carte d'électeur.
On était très étonnés puisque aucun d'entre nous n'avait fait la démarche de s'inscrire sur les listes électorales néerlandaises. Et on s'est rendu compte, à notre très grande surprise, qu'en fait, à partir du moment où on avait reçu le Stempass, nous étions obligés de voter pour des listes néerlandaises. J'ai une amie qui m'appelait encore hier et qui me disait « comprends pas. J'ai déchiré mon stem pass néerlandais parce que je pensais que c'était une erreur de leur part. Et maintenant, je me retrouve à ne plus pouvoir voter ni aux Pays-Bas, ni sur les listes consulaires.
Comme tous les expatriés, les 25 000 Français vivant aux Pays-Bas devraient pourtant avoir le choix. Le bug viendrait des autorités néerlandaises et d'une communication erratique du consulat français. Des mails intempestifs qui créent la confusion, c'est aussi ce qu'ont reçu des électeurs à Rome ou Berlin. Visiblement embarrassé, le Quai d'Orsay refuse de commenter. Quant au risque de double vote, un système d'échange d'informations permet en théorie d'éviter les doublons, sauf pour les binationaux qui peuvent s'inscrire dans les deux pays. Sachant que le double vote est interdit et passible de sanctions jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.
Il est aussi question de vote pour les élections européennes au Royaume-Uni. Le pays organise son scrutin demain en l'absence d'accord sur le Brexit. Face au temps qui passe, la première ministre Theresa May a proposé hier soir un nouveau vote sur cette sortie de l'Union européenne. Le texte proposerait cette fois la possibilité d'un deuxième référendum. Et nous y reviendrons avec notre correspondant à Londres dans le journal de 7 heures. Les États-Unis font état d'indications selon lesquelles le régime de Bachar el-Assad aurait mené une nouvelle attaque chimique en Syrie, attaque au chlore dimanche dernier, voilà ce que dit le communiqué américain. Washington menace de représailles. Partons maintenant en Turquie, où une chaîne de télévision est sous le feu des critiques depuis qu'elle a écourté lundi soir une interview du candidat de l'opposition à la mairie d'Istanbul. La chaîne privée CNN turque a brusquement interrompu l'entretien lorsque le candidat, Ekrem İmamoğlu, a voulu détailler les dépenses de l'équipe sortante. İmamoğlu avait, rappelons-le, été déclaré vainqueur de l'élection à Istanbul en avril dernier face au candidat soutenu par le président Erdogan. Une élection depuis invalidée et le voilà donc censuré à Nandlower.
Avec les pancartes qu'il avait amenées sur le plateau de CNN Turc, Ekrem İmamoğlu avait l'intention d'expliquer comment le parti au pouvoir, l'AKP, dilapidait le budget de la mairie d'Istanbul en dépenses extravagantes. Le présentateur vedette de la chaîne, Ahmet Akan, ne lui en a pas laissé le temps.
Nous transformerons ce système de gaspillage en un système d'économie. Nous décréterons la mobilisation générale, la mobilisation pour Istanbul. Et pour cela, il y a le tourisme, l'économie, l'éducation.
Eh bien, merci beaucoup. Je ne veux pas vous couper la parole, mais nous n'avons plus de temps. Nous nous dirons au revoir après une courte pause publicitaire.
Ekrem İmamoğlu, dont l'élection le 31 mars à la mairie d'Istanbul a été annulée par les autorités, s'attendait à parler une demi-heure de plus. C'est en tout cas ce que CNN Turc lui avait annoncé. Emin Çapa, un ancien de CNN Turc, a affirmé savoir de sources sûres que la régie de l'émission avait reçu l'ordre de mettre fin à l'interview. La chaîne s'est défendue en affirmant qu'Ekrem İmamoğlu avait tout de même bénéficié d'1h25 d'antenne, soit 7 minutes de plus que le candidat du pouvoir Binali Yıldırım. Dans les rangs de l'opposition turque, l'épisode exaspère mais il n'étonne personne. Depuis sa précédente campagne, Ekrem İmamoğlu est quasiment absent des écrans de télévision, sous emprise presque totale du chef de l'État Recep Tayyip Erdogan.
Et la nouvelle élection à Istanbul est prévue le 23 juin prochain. Le Sénat français a validé hier soir une copie corrigée de la loi pour une école de la confiance. Copie corrigée parce que plusieurs dispositions ont été supprimées par le Sénat, notamment la possibilité de regrouper les écoles primaires et les collèges au sein d'un nouveau type d'établissement. Là-dessus d'ailleurs, même le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a reculé face aux critiques des enseignants et des parents d'élèves. Hier, Jean-Michel Blanquer recevait les 3 fédérations de parents d'élèves au ministère à ce propos. Une rencontre satisfaisante, mais qui aurait dû intervenir plus tôt pour Rodrigo Arénin. Il est coprésident de la Fédération des conseils de parents d'élèves.
C'est bien qu'il le fasse. Nous, on lui a fait remarquer quand même que ça aurait été mieux de le faire avant plutôt qu'après, parce que ça aurait évité des malentendus. Après, évidemment, le message du ministère se veut rassurant. Nous, on a pour habitude d'attendre ce qui se passera sur le terrain. Donc, si ce qui est dit se vérifie sur le terrain, ça avance plutôt dans le bon sens. Mais si jamais les moyens humains en particulier ne sont pas là et si les procédures administratives ne sont pas au rendez-vous, on risque d'aller encore une fois à la rentrée avec des déconvenues pour l'avenir, pour éviter un mouvement social qui ne va pas s'arrêter tout de suite. Il faut que ces choses-là soient travaillées en amont, en associant les parents, en associant les fédérations de parents. Le dialogue, ça ne peut pas être à sens unique. Nous avons des propositions à faire pour changer l'école. Il est temps que ces propositions soient entendues et intégrées dans le reste du quinquennat. Ça ne saurait être le ministère seul qui décide de l'avenir de l'école. La réponse qui a été apportée, c'est que oui, on devrait travailler ensemble. La question de travailler ensemble, c'est pas de se positionner exclusivement sur les propositions du ministère. Travailler ensemble, ça veut dire écouter aussi ce que nous avons à dire et intégrer aussi nos propositions. Et ça, cette méthode de travail, aujourd'hui, n'est pas actée.
Des propos recueillis par Maud Calves. La taxe GAFA passe le cap du Sénat. Cette taxe sur les grosses activités numériques visera une trentaine d'entreprises en France, dont les géants du type Google, Amazon, Facebook et Apple. Nous nous en étions fait écho sur France Culture il y a près de deux mois. À la Sorbonne, la pièce de théâtre Les Suppliantes d'Eschyle était déprogrammée il y a donc deux mois. Plusieurs manifestants du CRAN, du comité représentatif des associations noires ou de l'UNEF, s'étaient émus de ce spectacle raciste, selon eux, montrant des blackface avec des comédiens grimés de noir. Hier soir, finalement, la représentation a pu se tenir devant 900 personnes et sans incident, Maxime Fayol.
À l'entrée du grand amphithéâtre, plusieurs policiers et quelques vigiles sont placés pour éviter une nouvelle perturbation de la pièce. La foule pourra finalement entrer sans encombre. Parmi les invités, l'écrivain Pierre Jourde, qui dénonçait il y a deux mois le totalitarisme des manifestants.
Ils s'étaient targués d'une victoire. Je crois que leur victoire aujourd'hui est une lourde défaite en race campagne, et d'autant plus une lourde défaite que de grands metteurs en scène et de grands intellectuels se sont mobilisés contre leur action délirante. C'est une victoire de la liberté d'expression sur la bêtise au front bas qui exploite une cause juste, l'antiracisme, à des fins stupides et à des fins essentiellement, à mon avis, publicitaires notamment.
Le doyen de la faculté de lettres de la Sorbonne, Alain Talon, estime que laisser passer du temps a permis de dissiper les malentendus.
Je pense que tout le monde a compris qu'il y avait eu un contresens complet sur les intentions du metteur en scène et de la troupe. Dès qu'il y a situation de conflit, c'est qu'il n'y a pas eu de dialogue. Et donc, notre rôle comme universitaire, c'est de rétablir le dialogue.
Un dialogue qui fut malheureusement impossible avec les manifestants, a dénoncé le metteur en scène, Philippe Brunet.
Ils étaient tellement cassants et péremptoires et convaincus qu'on devait tomber les masques ou arrêter la pièce ou changer la mise en scène. C'était l'a priori de départ. C'était pas une très bonne base pour discuter. Je dis pas que le colonialisme soit un cliché, mais ce qu'on en fait aujourd'hui dans ce pseudo-affrontement racialiste crée justement du racialisme alors qu'il prétend le dénoncer.
Philippe Brunet qui était satisfait hier, la pièce fut très appréciée des spectateurs, en témoignent les longues minutes d'applaudissements à la fin de la représentation.
C'était un reportage de Maxime Fayol. Le ciel de ce mercredi sera globalement ensoleillé avec des températures en hausse. 15 degrés ce matin à Strasbourg, 18 à Paris, 22 à Perpignan. Et c'est la fin de ce journal d'actualité. Il est 6h40. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Jacques, les revues sont des lieux privilégiés de diffusion et de discussion de la recherche. Mmh. Et les plus généralistes animent le débat public. Elles sont donc toujours les bienvenues dans votre journal des idées.
Oui, Pierre Vidal-Naquet disait qu'elles sont à la fois des laboratoires et des observatoires. La dernière livraison de la revue Tracé arpente le monde des sciences humaines et sociales tel qu'il s'expose au travail dans les revues. D'abord, elles servent à baliser les différents champs disciplinaires qu'elles s'emploient à rendre lisibles, praticables et donc discutables, même celles qui adoptent une position transversale et pluridisciplinaire. Pour un chercheur, le passage en revue est un moment essentiel, à la fois en termes de carrière et pour se confronter aux normes académiques qui régissent son champ. Ainsi, résument les coordinateurs du numéro, les revues se trouvent érigées en instruments de classement et elles-mêmes classées selon leur plus ou moins grande aptitude à fonctionner comme telle, et selon le nombre de citations qu'elles occasionnent, le fameux impact factor censé déterminer la valeur d'une revue et de ses auteurs. D'où une forme de concurrence pour attirer les capitaux symboliques et matériels qui permettent d'obtenir une position recherchée dans le champ, subventions mais aussi grands noms pour les comités de rédaction, articles de chercheurs et chercheuses reconnus, exercer une influence, faire vivre un courant ou un objet. Il n'est pas possible d'exister en tant que revue scientifique sans développer de manière plus ou moins explicite une stratégie et en mettant en scène une forme de science débarrassée de tout pouvoir autre que scientifique, elles définissent ce que le pouvoir scientifique doit être. Le passage au numérique n'est pas sans effet sur le contenu, l'audience et le modèle économique de ces revues. Paradoxalement, la diffusion en ligne peut avoir pour effet d'enfermer davantage les sciences humaines et sociales dans le champ académique, observent les auteurs. Les sites spécialisés supposent souvent des abonnements onéreux pris en charge par les institutions de recherche et restreignent d'autant leur audience publique. La revue Tracé est présente sur le site Open Edition en libre accès grâce à une subvention du CNRS qui prend en charge notamment un demi-poste de secrétaire de rédaction. Pour les chercheurs, la publication d'articles est comptabilisée en équivalent travaux dirigés de décharges d'enseignement. Mais pour une revue en ligne comme En attendant Nadeau, c'est le bénévolat intégré intégrale qui est la règle. Chercheuse en littérature anglophone, Dominique Goy-Blanquet raconte dans ce numéro de Tracé l'histoire et les coulisses du site de critique constitué en janvier 2016 par l'ancien comité de rédaction de la Quinzaine littéraire qui voulait rester fidèle à l'esprit de Maurice Nadeau suite à un conflit avec la nouvelle propriétaire du titre. À propos du style adopté dans ses articles pour le site, la chercheuse précise que s'ils alignent moins de notes en bas de page, ceux-ci ont en retour influencé son écriture universitaire dans un souci d'allier rigueur et légèreté, de tenir la main du lecteur dans l'esprit du gueuloir de Flaubert. Exit les phrases qui ne résistent pas à l'épreuve d'une lecture à voix haute. Parmi les innovations entraînées par le nouveau format, la fin du cloisonnement entre lettres et sciences humaines et un éditorial à géométrie variable en fonction d'une une évolutive quant au titre. Outre les dons de lecteurs, de mécènes, les articles achetés en avant-première par Mediapart, le site s'emploie à se déployer et développer à l'international, notamment grâce au partenariat conclu avec l'Institut français ou bientôt avec Public Books. Difficile de conclure cette chronique sans évoquer l'association Entrevue qui organise chaque année le Salon de la Revue et anime ainsi tout sont référencées 3000 publications en version papier et numérique. Elle édite la Revue des Revues. Au sommaire de la dernière livraison, un article de Linda Lee sur l'histoire des revues comme promontoire des possibles, une contribution d'Alain Mascarou sur le temps traversé par l'éphémère, la revue durable d'Yves Bonnefoy, et la merveilleuse petite revue d'art pour les enfants et leurs parents, Dada. Ivan Rialan en retrace l'historique presque trentenaire déjà. Dada est à la fois un mot d'enfant et un courant d'avant-garde. La revue cultive donc un esprit de création et de jeu, invitant les adultes à s'y joindre. Par un parti pris graphique et éditorial assumé, elle entre en résonance avec les tendances les plus actuelles du secteur, en particulier grâce à une ouverture à l'art contemporain. Ses livraisons sont thématiques, le plus souvent liées à des expositions en cours, ce qui permet de s'en servir comme d'un guide ludique pour y conduire ses enfants. La dernière est consacrée à Jean Dubuffet, à l'occasion de l'exposition au Mucem de Marseille, un barbare en Europe. C'est le titre de l'expo, ficelle, goudron, poussière. On sait qu'il y a pire que l'art brut sur le continent pour brutaliser et sans l'art ni la manière. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui des enjeux internationaux, Trump et les prochaines présidentielles.
C'est ça, c'est annoncé par une source de la Maison-Blanche depuis lundi. Donald Trump lancera sa campagne officiellement pour la présidentielle autour du 15 juin, presque 4 ans, jour pour jour, après sa précédente candidature. Et alors que les candidats démocrates, eux, se ruent pour l'investiture aux primaires, lui vise 2020 déjà, et promet de ne pas laisser ses électeurs, je cite, s'endormir. Il garde toujours ses 43% d'opinion favorable. Est-il infaillible? On voit ça avec vous, Laurent Snardon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes responsable du programme États-Unis de l'IFRI, Institut français des relations internationales, et auteur des États-Unis de Donald Trump en 100 questions chez Talendier l'année dernière. Alors juste une remarque sur cette annonce donc non officielle de la Maison-Blanche, faite après une visite de Trump en Pennsylvanie, où Joe Biden tenait son premier meeting aussi ce week-end. On peut dire que donc la campagne est officiellement lancée, celle pour 2020.
Oui, oui, elle a clairement démarré depuis un bon moment avec plus de 20, 22, 23 candidats du côté démocrate où il n'y a pas de candidat naturel. Et puis de l'autre côté, côté républicain, un candidat évident qui est Donald Trump qui n'aura probablement pas de challenger dans des primaires républicaines.
Oui, c'est ça, puisqu'il a 91%, je crois, pour l'instant, d'opinion favorable parmi les républicains pour ce qui est de la primaire. Juste encore une remarque sur la forme. Donc, il était en Pennsylvanie, là où était aussi Joe Biden. Joe Biden qui a été très attaqué par Donald Trump ces dernières semaines. Est-ce que c'est lui qui fait réagir Donald Trump et qui l'inquiète en quelque sorte?
Sans doute, puisque Biden mène le jeu côté démocrate pour l'instant, puisque c'est celui qui a le plus d'intentions de vote côté démocrate. Ça, c'est la première raison. Et la seconde, c'est que Biden joue sur le même terrain que Trump. C'est-à-dire que lui, enfin parmi les autres candidats démocrates, lui, il a clairement choisi d'essayer de reconquérir l'électorat des classes moyennes blanches, peu diplômées, des États du nord-ouest du pays, dont la Pennsylvanie, mais aussi la Rust Belt, qui sont les États dans lesquels l'électorat populiste a voté Trump. Et donc Biden cherche à les récupérer en quelque sorte.
Oui, alors ce Joe Biden, faut peut-être le resituer pour nos auditeurs, c'est l'ancien vice-président de Barack Obama 2009-2017. C'est quand même sa troisième candidature à la primaire. Vous avez dit qu'il avait une bonne cote d'opinion, je crois que c'est 38% à peu près. Est-ce que c'est vraiment le candidat idéal pour les démocrates ?
Eh bien, forcément, parce que à la fois, il est donc très connu et il a une image assez sympathique, mais en même temps, je crois que sa candidature est un peu fragile, parce que quand on va rentrer dans le vif du sujet, il va être rattrapé par tout un tas de commentaires maladroits qu'il a pu faire dans sa carrière. Il est connu pour faire beaucoup de gaffes, et du coup, je pense que sa candidature pourrait facilement s'écrouler. Une autre raison de sa fragilité, c'est qu'il doit fatalement défendre le bilan de Barack Obama, notamment en économie, et ce fameux électorat des classes moyennes qu'il cherche à récupérer a en réalité plutôt bénéficié des années qui viennent de s'écouler avec Trump, des 2-3 ans qui viennent de s'écouler avec Trump. On voit notamment que l'économie va très bien et que, alors là c'est la divine surprise de Trump ces derniers mois, les bas salaires commencent enfin à remonter aux États-Unis, et donc ce sont ces classes moyennes qui en bénéficient. Et donc je ne suis pas sûre que Biden puisse réussir à récupérer leur confiance au final.
Oui, effectivement, réussite économique de Donald Trump. Je crois que c'était une étude de la Réserve fédérale d'Atlanta qui montrait que dans 29 villes ou États, ses bas salaires avaient augmenté effectivement récemment. Quel atout il aurait alors, Joe Biden, disons, c'est d'être une sorte de synthèse entre ses origines middle class véritable et puis le fait d'être une aile centriste, pas trop inquiétante pour certains démocrates aussi.
Oui, et là, il incarne une combinaison plutôt positive de ce millefeuille idéologique qu'est aujourd'hui le Parti démocrate. Si vous voulez, dans le Parti démocrate, comme il n'y a pas de candidat naturel, il y a beaucoup de lignes idéologiques qui s'affrontent, et notamment, il y a 3 lignes de fracture importantes. La première, c'est sur l'économie, entre ceux qui défendent une ligne plutôt centriste et libérale, donc ça c'est Joe Biden, versus ceux qui se disent plus socialistes, entre guillemets, c'est-à-dire bon, une gauche plus radicale, notamment sur les questions d'éducation, de santé ou de défense ou non du libre-échange. Et ça, c'est plutôt quelqu'un comme le sénateur Sanders ou Elizabeth Warren, par exemple. La seconde ligne, c'est sur les questions de société. Est-ce qu'on va être plutôt pour la défense des minorités ou plutôt pour la défense des classes moyennes? Bon, sous-entendu blanche, donc ça c'est là aussi plutôt Joe Biden. Et puis une troisième ligne, c'est entre ceux qui vont choisir d'être extrêmement agressifs contre Trump ou ceux qui vont choisir une ligne plus apaisante pour chercher à réunifier le pays qui est quand même extrêmement déchiré. Et là aussi c'est Biden, il va certainement jouer cette carte de la sympathie et de la réunification du pays.
Oui, c'est ce qu'il a dit plusieurs fois. Et d'ailleurs, c'est aussi peut-être pour éviter le reproche que fait déjà à l'avance Donald Trump aux démocrates d'être, disons, surtout des candidats en colère contre lui. Plusieurs lignes, vous avez dit, plusieurs tendances au sein du Parti démocrate, des centristes, une aile gauche, vous l'avez évoqué, certains indépendants, on pourrait dire, comme Pete Buttigieg, le maire de South Bend, une gauche qu'on dit religieuse aussi. Est-ce que ce foisonnement, il est bon pour les démocrates ou alors est-ce qu'il va pas saturer les électeurs, comme le disent certains, l'effet, disons, rayon de céréales au supermarché?
Oui, il faut aussi ajouter dans toutes ces lignes idéologiques que ce qui décidera le candidat, enfin, ce qui désignera le candidat, ce sera aussi son charisme. Et bon, Joe Biden, pour reparler encore de lui, a pas mal de charisme, mais en même temps, il est connu pour ses gaffes, comme je le disais tout à l'heure, donc c'est pas un charisme forcément très efficace. Un dernier aspect dans tout ce foisonnement idéologique, c'est qu'il faut bien noter que on l'a vu dans les midterms de novembre dernier, les élections de mi-mandat de novembre dernier, les démocrates sont extrêmement mobilisés pour en finir avec Trump. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils soient très radicaux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils sont très mobilisés qu'ils vont nécessairement vouloir un candidat très très à gauche. Donc ça joue pour Biden. Mais enfin, il est certain que c'est peut-être le candidat et son charisme qui émergeront, qui décideront de la ligne idéologique du parti en définitive.
Oui, ce qui veut dire que finalement Joe Biden a quand même quelques chances. Juste un mot des autres candidats, Kamala Harris ou Pete Buttigieg, ils sont assez loin derrière, même Bernie Sanders qui est à 16% d'opinion favorable derrière derrière Joe Biden. Ça veut dire qu'ils ont aucune chance pour le moment?
Oui, mais enfin vraiment, le champ est extrêmement ouvert. Je pense qu'il va y avoir une cristallisation sur un autre candidat, sans doute. Kamala Harris est assez sérieuse, elle a une image de femme très sérieuse de Californie. Elle s'est gauchisée ces derniers mois pour essayer de ratisser plus de candidats, mais elle a une image. Elle a commencé par être attorney general, ministre de la justice de Californie, où elle a été assez ferme. Donc elle aura une image assez, un rayon d'action assez large, je pense.
Bon, et face à cela, alors, si on liste les atouts de Donald Trump, mais il y aura l'occasion d'en reparler, il y a toujours cette base donc d'approbation de 43%. Certains le voient comme le verre à moitié vide, puisqu'il a jamais dépassé les 50%. Comment est-ce que vous estimez sa popularité et ses chances d'être réélu?
Oui, en deux mots, lui, il a absolument appliqué son programme. C'est-à-dire que son programme conservateur et son programme populiste, il a vraiment coché toutes les cases, le libre-échange, l'immigration, son attitude anti-système, le succès de l'économie. Enfin, vraiment, tout est là pour que ces 43% revotent pour lui. Il n'y a vraiment aucune raison qu'il se détourne de ce candidat. En même temps, sa fragilité à lui, c'est qu'il ne cherche pas à élargir cette base. C'est-à-dire qu'il ne va pas essayer d'apaiser son discours pour reprendre quelques centristes ou quelques indépendants. Et du coup, on se demande si cette base, vraiment, qui va revoter pour lui, suffira à l'élire. Ça, c'est l'équation de Trump.
Ce qui veut dire qu'un surcroît de mobilisation démocrate pourrait suffire, finalement, à le dépasser en 2020.
Oui, s'ils réussissent à faire émerger un candidat qui n'a pas de failles terribles et qui est assez raisonnable et sérieux, les chances de succès de Trump ne sont pas totales. Elles sont très bonnes, mais elles ne sont pas totales.
Bon, et s'il réussit à survivre à la sorte de guérilla juridique qui est menée au Congrès aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup pour toutes vos explications ce matin, Laurence Nardon, responsable du programme États-Unis de l'IFRI. Puis on renverra à votre livre sur le site des enjeux internationaux de France Culture, Les États-Unis de Trump en 100 questions chez Talendier. Merci.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
On n'a jamais un rond, on sèche les trois quarts des cours, on n'aura jamais le bac.
France Culture passe le bac, Tiffaine de Roquigny.
Cette semaine, le studio se transforme en salle de classe et nous accueillons la crème des professeurs de lycée pour réviser les grands thèmes de l'économie. Peut-on concilier croissance et environnement? À qui profite l'internationalisation des échanges? Et comment lutter contre le chômage? Que vous soyez lycéen ou nostalgique du bachot, à vos stylos, l'épreuve va commencer, vous avez une heure.
Entendez-vous l'écho à l'heure du bac, de lundi à jeudi à 14h et sur franceculture.fr.
Notre-Dame de Paris, un roman cathédral. Publié en 1831, le chef-d'œuvre de Victor Hugo a pour personnage principal un monument. La Bibliothèque nationale de France et France Culture vous invitent à une nuit littéraire vendredi 24 mai en ouverture du festival La Bibliothèque Parlante. Présentation du manuscrit, lecture par Charles Berling, projection monumentale, émission et diffusion d'un feuilleton radiophonique avec Michel Bouquet. Notre-Dame de Paris, monument littéraire, le 24 mai de 19h à 22h en direct et en public de la BNF et jusqu'au bout de la nuit sur France Culture. Plus d'infos, franceculture.fr.
À 6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins avec vous, Guillaume Erner, bonjour.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et il est parti vite, le pilote de Formule 1, Niki Lauda, qui nous a quittés le 20 mai.
Et ceux qui l'ont vu disparaître ont vu mourir le monde ancien, Lauda. Dans les sports mécaniques, c'était d'abord une gueule, plus une pièce d'origine, un bout de sa cuisse droite en plein visage, une oreille en moins. Une personne facile à reconnaître à Monaco, c'était le seul qui n'avait pas eu recours à la chirurgie esthétique. Lauda était défiguré depuis un terrible accident au Nürburgring en 1976. Le Nürburgring, c'est un terrible circuit de Formule 1 au dessin très tourmenté. Et pour l'affronter, il faut une âme simple, ne pas se poser trop de questions et accélérer. Lauda a fracassé sa monoplace sur la piste du Nürburgring. Celle-ci s'est embrasée. Il est pratiquement resté une minute dedans avant qu'on ne parvienne à l'extraire de sa voiture. Lauda a survécu, les poumons brûlés, un visage fixe, pas grave. D'ailleurs, personne ne l'avait jamais vu sourire. Plus de cheveux, plus de cils. Décidant donc de ne pas avoir recours à une opération, conservant ainsi les stigmates de cet accident. Et 6 semaines après avoir été déclaré mort, Lauda était au départ du Grand Prix de Monza. Lauda, c'était le monde ancien, le monde des duels, notamment son duel avec James Hunt, pas un duel pour rigoler, un duel à mort de ceux qui, selon l'anthropologue Albert Hirschman, sont derrière nous, parce qu'ils appartiennent à l'époque où la chevalerie n'avait pas encore été remplacée par la bourgeoisie. Lauda appartenait au monde ancien où l'on pouvait crever pour une place sur un podium, le tout sur des moteurs thermiques. Et ce n'est probablement pas un hasard si Lauda est mort quelques heures après que la France a annoncé qu'elle interdirait les moteurs thermiques en 2040, qu'elle les interdirait à la vente, car bien bientôt, la Formule 1 sera remplacée par des formules électriques, lesquelles tourneront dans des bruits d'aspirateurs. Ça sera logique et rationnel, car rien n'est plus chevaleresque qu'un moteur thermique plein de pièces fragiles, délicates. Enzo Ferrari, d'ailleurs, avait reproché à Lauda d'avoir peur après son accident. Lauda lui a reproché de ne pas être capable de fabriquer un carburateur fiable. La solution arrive sous forme de moteur électrique. Lauda n'est plus, et bientôt, il n'y aura plus de carburateur.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
C'est une caméra qui fait vaciller l'extrême droite autrichienne. Vendredi, deux journaux allemands ont publié une séquence vidéo montrant Heinz Christian Strache, chef du parti autrichien de la liberté, le FPÖ, et numéro 2 du gouvernement autrichien, en train de proposer des contrats publics à une oligarque russe en échange de financement occulte et du rachat du plus gros journal autrichien. Pour nous expliquer les conséquences de cet événement pour l'extrême droite autrichienne, mais aussi plus généralement pour les partis populistes européens, nous accueillerons aux environs de 7h40 Jacques Rupnik, il est directeur de recherche au Centre d'études et de recherche internationale de Sciences Po. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.